Donc, Cathy Perret va nous parler de l'efficacité des dispositifs d'aide à la réussite en premier cycle, constat et questionnement. Cathy Perret est ingénieure de recherche, responsable de l'évaluation de l'enseignement au Centre d'innovation pédagogique et d'évaluation à l'Université de Bourgogne. Vous êtes chercheur associé à l'IREDU, Institut de recherche en éducation.
Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence pour leur invitation et la richesse des débats proposés. J'ai le lourd challenge de passer après Marianne Frenet, qui a mis en avant l'importance des travaux sur les dispositifs d'aide à la réussite des étudiants et la mesure de leur efficacité. Donc, je vais essayer de vous parler donc des dispositifs d'aide à la réussite et essayer de mettre en évidence un certain nombre d'apports de la recherche française actuelle sur cette question de l'efficacité des dispositifs d'aide à la réussite, mais également des points d'interrogation, des zones d'ombre et un certain nombre de questionnements que ces éléments peuvent apporter, aussi bien du point de vue des étudiants, des enseignants, que des institutions universitaires. Alors, je ne vais pas multiplier les chiffres, les techniques de mesure, même si j'en suis très friande. Je vais plutôt essayer de vous faire une synthèse des travaux qui existent. Et je tiens à préciser que je vais m'appuyer sur un certain nombre de travaux qui ont été réalisés dans mon université de rattachement, l'Université de Bourgogne, par plusieurs équipes de chercheurs donc appartenant au CIPE et à l'IREDU, et que ces travaux ont pu être menés dans un contexte local favorisant justement des mesures d'efficacité et d'évaluation. Et c'est un élément important à prendre en compte, parce qu'on n'a pas toujours ce contexte pour pouvoir mener de telles mesures. Alors avant de vous parler, d'entrer dans le sujet vif de l'efficacité, je voudrais faire trois points. Le premier va concerner un petit peu un état des lieux de la recherche française sur la question des dispositifs d'aide à la réussite en premier cycle, et je vais me centrer vraiment sur les premiers cycles et à l'université. Il existe d'autres types de dispositifs d'aide, et cet après-midi, on aura quelque chose sur les cordées de la réussite, donc c'est vraiment des choses que je ne vais pas aborder ici, en me centrant seulement sur l'université. Le deuxième point que je vais aborder, c'est un petit peu de vous parler des dispositifs d'aide à la réussite en France. Et le troisième point, ça va être de vous donner quelques éléments sur la mesure de l'efficacité, éléments qui m'apparaissent importants de bien vous préciser. Et si c'est le seul point que j'aimerais que vous reteniez cette présentation, c'est vraiment ce point-là, parce qu'on a parfois tendance à faire des raccourcis en termes d'efficacité, et j'aimerais qu'on puisse avoir là quelque chose qui serve à tous à l'issue de cette présentation. Et puis j'en viendrai ensuite au constat et au questionnement qu'on peut avoir à propos de l'efficacité de ces dispositifs. Alors si on en vient, comme l'a dit Marianne, on a peu de recherches sur la question de l'efficacité des dispositifs. On a des recherches, comme vous pouvez le constater, sur l'enseignement supérieur. Dès qu'on va s'intéresser aux dispositifs d'aide, eh bien là, la recherche est beaucoup moins féconde. Elle est née à la fin des années 80 avec les travaux de Coulon sur la méthodologie du travail universitaire. Elle s'est ensuite développée avec des travaux sur le tutorat menés, par exemple, par Emmanuel Anotte, par Magali Danner, par Christophe Michaud, et dans différentes universités. Puis on a eu une période, en fait, d'un petit vide, flottement en termes de publication et même de recherche sur les dispositifs d'aide. Et ce n'est que depuis quelques années, 2-3 ans, qu'on voit réapparaître des travaux sur ces dispositifs d'aide, parce qu'on a eu en France ce qu'on appelle le plan réussite en licence, qui a permis l'émergence de nouvelles formes d'aide à la réussite de nos étudiants dans nos établissements. Alors les travaux, l'un des points sur lesquels j'aimerais insister, sur lesquels peut-être certaines présentations ont également insisté, c'est qu'on a des travaux, mais qui sont centrés sur des expériences locales. Moi-même, je m'appuie sur les expériences de mon université, des expériences locales menées par des chercheurs et des praticiens sur des dispositifs singuliers. Alors que dans les années 90-2000, on pouvait avoir des études, notamment sur le tutorat, qui étaient menées à l'échelle de plusieurs universités, qui permettaient des comparaisons de résultats. Actuellement, la recherche n'a pas du tout de ce type de recherche, de résultats. Et je déplore pour ma part ce manque de recherche de manière plus général, qui permet une confrontation des résultats sur l'efficacité pour permettre une accumulation des résultats et une confrontation des résultats. On est dans une phase, on va dire, de développement de la recherche sur ce sujet-là, mais on reste encore sur des résultats qui restent à conforter, et je reste moi-même dans cette position vis-à-vis des résultats que je vais pouvoir vous proposer. Alors, si on en vient un petit peu au dispositif d'aide à la réussite en France, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des dispositifs existants, mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que sous ce terme générique de dispositif d'aide à la réussite, on va trouver une palette de dispositifs, et ce terme générique va être compris de manière différente par les différents acteurs de l'université. Alors, je vais reprendre mon papier pour un petit peu égrener des types de dispositifs. On va avoir bien sûr du tutorat, de l'appui méthodologique, de l'accueil personnalisé, des modules de soutien méthodologique, des modules de soutien disciplinaire, de la remédiation, de la remise à niveau, des sessions de révision, de la préparation d'examens, des examens blancs, des projets de baisse de la taille des groupes de TD, des actions de professionnalisation, des actions de réorientation, des rentrées décalées, etc., etc. Donc vous voyez que derrière ce terme générique, on va trouver une palette d'actions, et donc lorsqu'on va chercher à mesurer l'efficacité, on va se heurter déjà à savoir qu'est-ce qu'on va chercher vraiment à mesurer dans ces dispositifs d'aide à la réussite. Et puis ces dispositifs, ils vont prendre des formes variées. Ils vont être destinés à tous les étudiants ou pas. Ils vont être faits durant l'année ou à certains moments, à la rentrée, après les examens, juste avant les examens, si on met en place des sessions de révision, entre les sessions d'examen, si on met des sessions de révision intersession, avec des étudiants qui peuvent être volontaires ou sélectionnés. Ça peut être des dispositifs obligatoires ou pas, intégrés dans les maquettes ou non. Donc là encore, vous voyez la complexité des dispositifs qui existent en France. Ils peuvent être gérés par des pôles à l'université dédiés à ce type d'action. Alors si c'est quelque chose qui est relativement rare en France, alors que comme Mariam l'a mis en évidence, c'est quelque chose qui est plus courant dans les pays nord-américains ou même en Belgique, par exemple. Mais ils peuvent être assurés par gérés, construits, assurés au quotidien par les enseignants-chercheurs. Ces dispositifs peuvent faire intervenir non seulement des enseignants-chercheurs, mais également des étudiants plus avancés, notamment, par exemple, lorsque sont mis en place du tutorat dans certaines formations. Donc voilà, quand on va essayer de mesurer un petit peu l'efficacité des dispositifs, vous voyez que la tâche est un petit peu ardue. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que rares sont les universités françaises qui ne mettent pas en place des dispositifs d'aide à la réussite. Ces dispositifs vont faire l'objet de communication auprès des jeunes et de leur famille, mais il n'existe pas à l'heure actuelle de recensement à l'échelle nationale des dispositifs existants au sein des universités françaises. Le dernier recensement date de 2010 et avait été fait par le comité de suivi de licence. Et ce recensement, et comme les constats qu'on a pu faire au sein de notre établissement, qui pendant 5 ans a mis en place plus de 500 dispositifs d'aide, a mis en évidence qu'un même dispositif, sous un terme générique, par exemple, d'enseignant référent, vous pouviez trouver une multitude de manières d'appliquer un même dispositif au sein d'un même établissement. Et donc, vous voyez là encore la diversité qui peut exister derrière des dispositifs nommés dispositifs d'aide à la réussite, en France. Donc l'introduction de ces dispositifs peut répondre également à différentes logiques, des logiques institutionnelles. Ces dispositifs peuvent être inscrits dans les modalités d'organisation des études, ça peut être des choix d'établissement, mais ça peut être aussi des projets portés par des personnes impliquées dans la vie de l'établissement ou par des enseignants-chercheurs particulièrement intéressés par la réussite des étudiants. La connaissance des motivations des enseignants-chercheurs construisant ou s'impliquant dans les dispositifs d'aide à la réussite étudiante ne sont pas connus. Et pourtant, c'est peut-être un point qui mériterait d'être connu, parce qu'en fait, la vie de ces dispositifs, leur pérennité, dépend en grande partie des motivations des enseignants-chercheurs. Et l'un des points qui est apparu lors de l'étude de la dynamique des dispositifs d'aide à la réussite dans notre université est la fragilité parfois de cette implication sur le long terme, qui s'explique notamment par l'arrivée, avec ces dispositifs d'aide, de nouvelles tâches assignées aux enseignants-chercheurs, désormais impliqués à l'accompagnement, au soutien, à la réorientation des étudiants, à des questions d'insertion professionnelle qui les éloignent de leur cœur de métier, mais surtout qui les impliquent dans des tâches qui ne sont pas reconnues en termes de carrière. Et donc, au bout d'un certain moment, on a une partie des enseignants qui peuvent se lasser peut-être d'avoir ce type de mission. Et c'est bien après toute la question de la pérennité des dispositifs qui va se poser. Alors, si on continue sur cette question des panoramas des dispositifs d'aide à la réussite en France, les différents constats mettent en évidence, en fait, que la mise en place de ces dispositifs est rarement l'occasion de mettre en place de nouvelles méthodes et pratiques pédagogiques. Les recherches en fait menées à l'Université de Bourgogne vont mettre en évidence d'autres types de résultats. C'est que la nature des dispositifs proposés aux étudiants ne va pas dépendre de la taille des promotions étudiantes. Ce n'est pas parce que vous avez une petite promo ou une grande promo que vous allez mettre en place tel ou tel dispositif d'accompagnement. Ce n'est également pas parce que vous avez des étudiants qui réussissent plus ou moins bien leurs examens que vous allez mettre en place tel ou tel dispositif. La compréhension des ressorts de construction des dispositifs est actuellement peu connue en France et même à l'échelle internationale. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, lorsque les dispositifs sont portés par les enseignants-chercheurs, ils vont plutôt mettre en place des dispositifs qui sont centrés sur leur cœur de métier, à savoir l'enseignement. Ils vont mettre en place des dispositifs qui vont s'intéresser à l'acquisition et la remédiation de connaissances et des compétences des étudiants, en faisant fi, en quelque sorte, des autres facteurs favorables à la réussite des étudiants, et notamment, comme Marianne a pu l'évoquer, les questions liées à l'intégration des étudiants. Alors, ce point-là repose la question également peut-être de l'accompagnement des enseignants-chercheurs mettant en place les dispositifs, mais également l'accompagnement des institutions universitaires sur cette question des facteurs de la réussite à l'université. Alors, si c'est l'étude de la dynamique des dispositifs, parce qu'on peut voir des dispositifs des kinés qui meurent sans vraiment comprendre la logique de cette naissance et de cette mort de ces dispositifs dans nos institutions. L'étude de la dynamique des dispositifs qu'on a pu faire à l'Université de Bourgogne, puisqu'on a eu 5 ans de recul pour essayer d'analyser qu'est-ce qui a bien pu se passer durant ces 5 ans. On a eu une baisse du nombre de dispositifs proposés aux étudiants, mais la structure globale des dispositifs a peu changé. Ce qui pose pour nous, en tant qu'acteurs ici de l'évaluation des dispositifs, question, puisqu'on était dans un établissement qui avait mis en place un système d'évaluation des actions, et c'est comme si un certain nombre de points sur les résultats d'efficacité des dispositifs qui avaient été proposés, diffusés à l'ensemble des acteurs de l'université avaient été peu pris en compte par les enseignants-chercheurs chargés des dispositifs, ce qui pose en fait différentes questions sur le management des dispositifs par l'institution, mais qui repose également une autre question qui, du côté des enseignants-chercheurs, qui a trait en fait au fait que ces enseignants sont fortement impliqués dans la construction et la gestion quotidienne des dispositifs. C'est des tâches qui sont lourdes et qu'il ne faut pas négliger, la lourdeur de la mise en place de ces dispositifs, la gestion quotidienne, ce qui fait que ces enseignants sont pris en quelque sorte dans cette routine. Il faut mettre en place les dispositifs, il faut qu'ils fonctionnent, et d'une année sur l'autre, vous voyez, je m'emballe, et ben je suis comme eux, ils vont s'emballer pour remettre en place les choses sans forcément se poser la question, mais finalement, est-ce que ça a marché, et sans prendre le temps de se poser la question, prendre le temps de réfléchir sur l'efficacité de ces dispositifs. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et je vous ai mis en bleu, mais là, ça ne paraît pas très bien sur ma diapositive, qu'on avait une faible appropriation des résultats de la recherche et des expériences. Pourquoi ? Parce qu'on a des équipes pédagogiques qui vont changer dans la gestion des dispositifs, avec parfois peu de transfert des acquis de l'expérience d'une même équipe au sein d'une même équipe, et puis peu d'appui sur les travaux menés par la recherche sur ces questions-là. On a un montage de dispositifs qui va s'appuyer sur des expériences et des ressentis d'équipe, mais pas forcément sur les éléments portés par la recherche en éducation sur les dispositifs pédagogiques, ce qui fait qu'on a pu mettre en place dans certaines universités des dispositifs qui, pour les chercheurs en sciences de l'éducation, on savait que ces dispositifs n'allaient pas fonctionner, mais les acteurs n'avaient peut-être pas la connaissance de ces travaux de la recherche en éducation pour mettre en place ces dispositifs. Alors je vais maintenant en venir à la question de la mesure de l'efficacité, avant d'en venir à quelques résultats concrets sur ces dispositifs. Donc je vais vous présenter quelques points. D'abord, lorsqu'on va chercher à mesurer l'efficacité de la réussite, si on considère que l'objectif premier est la réussite des étudiants, vous pouvez avoir un autre objectif, en mettant en place des dispositifs d'aide à la réussite, vous pouvez souhaiter attirer des étudiants et vous allez faire une mesure d'efficacité. Elle y entrait, par exemple, à l'attractivité de votre établissement. Vous pouvez avoir donc différentes mesures d'efficacité, mais si vous considérez que l'objectif premier de vos dispositifs est d'aider à la réussite et de favoriser, d'améliorer la réussite de vos étudiants, eh bien, il va falloir déjà définir ce que c'est que la réussite de vos étudiants. Et nous avons pu voir lors des différentes conférences hier et celle de Marianne, qu'on avait différentes manières de mesurer la réussite. Donc avant de vous poser la question d'efficacité, il va falloir déjà se poser la question, qu'est-ce que réussir ? Est-ce que c'est réussir un examen ? Est-ce que c'est réussir à avoir une licence au bout de telle année ? Est-ce que c'est réussir une réorientation ? Est-ce qu'un dispositif pédagogique peut également avoir comme objectif de faire en sorte que l'étudiant ait une réorientation réussie ? Est-ce que c'est une insertion professionnelle réussie, etc., etc. Donc voilà, là, vous pouvez avoir une multitude de manières de mesurer l'efficacité de la réussite des étudiants et l'efficacité donc d'un dispositif d'aide à la réussite. Et pour cela, il faut avoir des données. Et là, ça va être un petit peu le nœud du problème, c'est avoir des données sur la réussite. Et on va, pour l'instant, beaucoup se contenter, malheureusement, des données disponibles et donc des données sur les examens des étudiants. Et là, c'est l'un des points... l'une des zones d'ombre de la recherche sur cette question de l'efficacité des dispositifs, puisqu'on va pour l'instant se contenter d'examiner des effets à court terme sur les performances des étudiants aux examens. Lorsque je vais un petit peu continuer donc ma démonstration, donc vous avez défini ce que c'est que votre réussite, vous cherchez à connaître l'efficacité, vous allez comparer deux populations, une population qui est passée par le dispositif, qui a bénéficié du dispositif, et une population qui n'en a pas bénéficié. Jusque-là, vous me dites, tout va bien, donc je me dis, je vais comparer des taux de réussite, c'est ce que la majorité d'entre vous vont faire, et même on va faire de manière très simple. Oui, mais là, moi, je vais vous dire... Là, vous allez avoir un problème, parce qu'en fait, il est nécessaire de prendre en compte les différences de composition de la population venant dans vos dispositifs ou pas. Et là, je vais faire un petit retour en arrière. On a pu mettre en évidence, dans les années 90-2000, un effet positif du tutorat, en mettant en évidence que les étudiants qui participaient au tutorat, finalement, réussissaient mieux que les étudiants qui ne venaient pas. Et puis, les chercheurs ont s'interrogé sur le fait qu'on avait finalement peu d'étudiants qui participaient au dispositif, même si on avait des institutions qui avaient mis en place le tutorat, qui mettaient une information sur ces dispositifs. On avait peu d'étudiants qui participaient à ces dispositifs. Et puis, les chercheurs, en continuant à se demander, on a peu d'étudiants, en cherchant un petit peu à connaître mieux ces étudiants, ont pu mettre en évidence qu'on avait un certain type d'étudiants qui venaient à ces dispositifs et que c'était peut-être les étudiants, par exemple les travaux de Magali Danner ont pu le mettre en évidence, c'était les étudiants qui en avaient le moins besoin qui venaient à ces dispositifs. Et donc lorsque là vous comparez des taux de réussite entre des étudiants qui viennent et qui ne viennent pas à un dispositif, en fait vous comparez des bons étudiants avec des moins bons étudiants. Donc forcément votre dispositif il fonctionne, mais en fait vous ne mesurez pas une efficacité, vous mesurez juste une réussite de bons étudiants et de moins bons étudiants. Donc là, c'est un point sur lequel je voudrais insister parce qu'on a encore trop de rapports de travaux qui vont simplement comparer des taux de réussite pour mesurer une efficacité. Rares sont les recherches qui vont pointer cette question des différences de composition de population et qui sont des éléments nécessaires pour mesurer une efficacité d'un dispositif, ici pédagogique, mais quel qu'il soit. Alors maintenant, faisons-en un petit peu à ce qu'on connaît sur l'efficacité. Alors ce sont des programmes de recherche en cours qui ont commencé avec la demande d'évaluation du plan réussite en licence dans mon université, menée par deux équipes de chercheurs et impliquant différents chercheurs que je n'ai pas cités ici, mais qui sont partie prenante de ces travaux, qui manient des approches qualitatives, statistiques et quantitatives, et qui ont pour ambition en fait de marier différents types de mesures pour essayer d'appréhender au mieux une réalité. Ici, on se trouve sur un terrain qui est celui de l'Université de Bourgogne, et c'est bien par la multiplication des tentatives de mesures sur différents types de dispositifs qu'on peut avoir un faisceau de preuves sur l'efficacité des dispositifs. Aucune mesure pour l'instant n'est parfaite. Je ne prétendrai pas à ce qu'on puisse avoir un jour une mesure parfaite, mais on avance petit à petit sur cette question de la mesure en multipliant la manière de mesurer, les dispositifs mesurés pour avoir ces faisceaux de preuves et une confrontation de résultats nécessaire à l'accumulation dans la recherche. Alors, le choix qui a été fait est de toujours prendre en compte la question de la réussite, comme on a pu le voir, en intégrant la question des abandons, et non pas seulement l'échec ou la réussite à l'examen et les notes des étudiants aux examens de différents cours. Donc, pour vraiment intégrer la question de la persévérance telle qu'elle a été abordée ce matin, dans une perspective de collaboration avec les équipes enseignantes, pourquoi cette collaboration est nécessaire de mon point de vue? Elle est nécessaire parce qu'elle permet une connaissance fine des dispositifs. Les dispositifs changent d'une année sur l'autre. La manière de conduire ces dispositifs peut changer, et c'est bien les enseignants-chercheurs, lorsqu'ils sont porteurs de ces dispositifs, qui peuvent aider le chercheur chargé en quelque sorte de mesurer l'efficacité, de mieux connaître ces dispositifs, mais également parce que ces équipes pédagogiques et ces enseignants-chercheurs vont nous permettre en tant que chercheurs d'accéder à des données existantes qui vont nous permettre d'éviter une collecte qui ne pourra pas se faire, puisque dans la plupart du temps, on va se poser de la question de l'efficacité une fois que le dispositif a été mis en place. Et là, on se retrouve confronté à une des difficultés de la mesure de l'efficacité de ces dispositifs, c'est que bien souvent, on va se poser cette question de l'efficacité, non pas en amont de la mise en place de ces dispositifs, mais une fois ces dispositifs déjà mis en place, et là, le chercheur va ne pas pouvoir recueillir toutes les informations qui lui seraient nécessaires pour construire une mesure d'efficacité, prenant en compte, par exemple, la question de l'intégration, prenant en compte la motivation des jeunes. Donc là, on va se retrouver confronté à un certain nombre d'obstacles et qui ont fait que, de notre côté, nous n'avons pu utiliser que des données existantes, des données administratives, mais qui permettent d'avoir un certain nombre de mesures et qui permettent d'apporter un certain nombre de résultats. Et tous les établissements universitaires pourraient mettre en place ce type d'analyse, ce qui est, à l'heure actuelle, très rarement fait. Il existe des données, vous avez des données, et vous pouvez les collecter, vous pouvez les regrouper pour essayer de conduire des mesures d'efficacité. Celles-ci ne seront pas parfaites, mais la connaissance des limites des données que vous avez vous permet d'avoir de premières informations sur l'efficacité des dispositifs que vous conduisez. Ça nécessite une construction de méthodologie spécifique. Je vous ai dit, on ne va pas comparer des taux de réussite. Vous seriez un de mes étudiants, je vous taperais sur les doigts, je vous dirais non, j'en veux pas, je veux savoir qui est venu, s'il a participé, et là, on va pouvoir peut-être faire une mesure de l'efficacité. On a tenté de comparer les résultats, et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on a seulement des mesures sur des effets à court terme, et non pas des effets à long terme des dispositifs, puisqu'on s'est seulement intéressé sur les performances des étudiants aux examens en première année. Sachant qu'à l'heure actuelle, les dispositifs d'accompagnement, d'aide à la réussite, sont mis en place en deuxième, en troisième année, en DUT. On a une multiplication des dispositifs à l'heure actuelle dans certaines universités françaises. Alors, on a quatre grands résultats qui ressortent des mesures d'efficacité des dispositifs. Vous les voyez listés sur cette diapositive. Donc, je vais revenir point par point. On a conduit une analyse de type macro sur un échantillon d'environ 10 000 étudiants sur les 14 filières de l'Université de Bourgogne ayant mis en place des actions d'aide à la réussite des étudiants. Cette approche macro n'est pas parfaite, mais elle permet d'apporter des premiers éléments de réflexion et d'interrogation sur l'efficacité des dispositifs. Elle montre, l'un des premiers résultats que cette recherche a pu montrer est le fait que sont les effets négatifs de la multiplication des actions. Plus le nombre d'actions proposées aux étudiants dans une filière est importante, plus les chances de réussite des étudiants tendent à s'amenuiser, excepté pour les étudiants des filières scientifiques. Donc on a des équipes pédagogiques qui vont être très dynamiques, proposer une multitude d'actions et qui vont même parfois conduire à l'épuisement de nos collègues chargés de ces actions. C'est un point sur lequel je ne voudrais pas passer. Avec une forte volonté d'expérimenter, tenter des choses, vouloir faire réussir ces étudiants. Mais en même temps, cette multiplication d'actions va avoir un effet pervers. Alors, pour l'instant, on a seulement ce résultat, cette mesure, sans savoir si ce résultat est lié à un découragement des étudiants, lié à une charge de travail supplémentaire introduite par le fait de suivre ces actions. Mais la question qui se pose là au niveau des institutions, c'est est-ce qu'on n'a pas réintroduit du coup un nouveau filtre en mettant en place ces dispositifs d'aide à la réussite, les meilleurs étudiants arrivant à passer ces nouveaux filtres d'aide, ces nouveaux filtres mis en place dans une université. Et là, on a quelque chose d'assez sidérant pour les institutions, car on souhaite aider peut-être les étudiants qui sont le plus en difficulté. Et là, ces premiers résultats posent question et mériteraient d'être approfondis par d'autres recherches sur cette question. Le deuxième point, c'est qu'on a un effet différencié, qu'il semblerait qu'on a un effet différencié des dispositifs d'aide à la réussite. Alors, aucune recherche, à part celle que nous avons menée, a essayé de comparer les effets de différents dispositifs. Alors, tout à chacun, tout responsable, notamment politique, dans un établissement, va se dire, est-ce qu'il faut plutôt que je mette en place du tutorat? Est-ce qu'il faut plutôt que je mette des sessions intervision? Est-ce qu'il faut plutôt... Là, un gestionnaire d'une institution universitaire va tout de suite voir l'intérêt d'essayer de comparer. Et moi, je suis économiste et je vous dirais, j'irai même plus loin, j'aimerais savoir quels sont les dispositifs les plus coûts-efficaces, si je souhaitais aller aussi loin dans ma démarche, mais là, je vais vous dire tout de suite que d'emblée, je vais me heurter à une question de mesure qui est celle de l'accès au coût des dispositifs et qui, là, n'est pas une question facile à résoudre. Alors, dans l'approche macro qu'on a essayé de conduire, on a seulement vu des effets positifs de l'accompagnement et du soutien renforcé, mais là encore, pas pour tous les étudiants. Alors, cet effet positif de l'accompagnement et du soutien renforcé renvoie à des travaux qui existent, notamment dans d'autres pays, et ce n'est pas un résultat complètement en décalage avec les travaux qui ont pu être menés dans d'autres pays. En revanche, sur les autres, l'absence d'effet des autres dispositifs renvoie à des réalités différentes. Le peu d'effets, semble-t-il, par l'approche macro, et on y reviendra après, lorsqu'on approche une autre lunette, une autre manière d'évaluer les dispositifs, renvoie là à un constat que même Coulon avait pu faire, c'est que lorsqu'on va prendre en compte les caractéristiques des jeunes qui viennent aux dispositifs de soutien, eh bien tout de suite l'effet des dispositifs tend à s'amenuiser, voire à ne plus exister. Et sur les modalités pédagogiques rénovées, là on a là un effet lié à la construction même de la variable, puisqu'on va regrouper des dispositifs très différents dans ces approches macro. Donc ces approches macro vont nous permettre d'avoir quelques résultats, vont nous permettre de nous poser un certain nombre de questions, mais elles ont également leurs propres limites, et donc il est nécessaire de passer par d'autres types de méthodes pour essayer d'appréhender les effets des dispositifs. Mais l'un des points les plus importants qu'on peut retenir de ces approches, c'est qu'elles mettent en évidence des différences d'effets de dispositifs entre les étudiants. Alors, ces effets différenciés entre les publics étudiants est un point important. Là, je ne vais pas vous passer en revue toutes les études qu'on a pu faire, mais c'est un point qu'on retrouve dans toutes les tentatives de mesures qu'on a pu mettre en œuvre et qui se retrouve également dans les mesures qui peuvent être faites, notamment en Belgique, sur le fait que la participation au dispositif d'aide à la réussite des plus faibles va leur permettre d'améliorer leurs notes. Donc d'améliorer leurs connaissances, leurs compétences, qu'on peut, si on fait l'hypothèse du lien, et je le fais sur ces connaissances et compétences avec leurs notes, mais donc elle va leur permettre une amélioration, mais elle ne va pas leur permettre de réussir. Ces dispositifs d'accompagnement jouent en quelque sorte un rôle d'amortisseur. Ils ne vont pas leur permettre de franchir la barrière pour réussir. Ce qu'on va pouvoir mettre en évidence également, c'est que ces dispositifs d'aide à la réussite vont avoir des effets positifs pour les étudiants moyens, ce qui avait déjà été mis en évidence par Magali Danner concernant les tutorats. Alors, ces étudiants moyens, par exemple, vont réussir leurs examens avec des dispositifs d'aide obligatoires, comme on l'a pu le montrer dans différents travaux menés à l'Université de Bourgogne. Mais, d'un autre côté, d'autres types de mesures vont mettre en évidence que des programmes basés sur le volontariat vont avoir des rendements plus importants pour des étudiants qui ont traditionnellement les plus fortes chances de réussir. Donc là, vous voyez toutes les limites des dispositifs qu'on peut mettre en place. On va avoir un effet, et là c'est une tendance lourde de toutes les mesures d'efficacité des dispositifs, une tendance à un plus faible abandon des étudiants, et notamment des étudiants les plus faibles. Alors, la question qui se pose, quelle est la raison de ce plus faible abandon? Est-ce qu'on a le respect d'un engagement ou le renforcement d'une motivation? C'est déjà une question que se posait Marc-Laure Romainville dans les années 90. C'est une question qui n'est pas résolue. Et puis se pose la question, oui, alors ils persévèrent dans nos établissements, ils restent dans nos filières, mais finalement, est-ce qu'ils finissent par réussir? Et là, pour l'instant, aucun travail ne nous permet de répondre à cette question. Et puis cette tendance alors là, je vais être un petit peu provocante, cette tendance à plus faible abandon va poser question aux établissements. Parce qu'en fait, vos étudiants vont rester dans vos établissements, mais mécaniquement, vos taux de réussite dans vos établissements, ils vont diminuer. Et on est dans un système où nos établissements sont en partie évalués sur leur taux de réussite. Donc là, vous allez pouvoir avoir des établissements qui vont mettre en place des dispositifs de soutien, s'impliquer dans la réussite des étudiants, et à court terme, avoir des taux de réussite qui diminuent, et ce qui peut poser après des questions sur des questions politiques sur la gestion des établissements et la question de la réussite étudiante. Alors, tout nombre de recherches pointent les problèmes de participation des étudiants au dispositif d'aide à la réussite. Alors, c'est des constats qui sont faits de manière régulière et qui ont été faits de manière récente par nos collègues, par exemple à Grenoble, ou dans certaines filières, je pense aux travaux de Canard et de ses collègues en psychologie, par exemple. Jusqu'à présent, on pointe, les enseignants et les étudiants tentent à se renvoyer la balle de pourquoi les étudiants ne participent pas au dispositif. On va pointer des questions d'organisation, des questions de motivation des étudiants, etc. On pointait également une absence de lucidité. À la fin des années 90, début des années 2000 en France, on pointait la question d'une absence de lucidité des étudiants sur leurs propres difficultés. Et de manière récente, Marielle Lemener, qui travaille dans ce programme de recherche, a pu mettre en évidence que les étudiants sont lucides sur leurs difficultés, qu'ils les expriment de manière plutôt juste. Des étudiants qui se déclarent en difficulté en début de l'année, mais finalement, ils ne vont pas réussir leurs examens, hein. Ils vont réellement être en difficulté. Ils sont conscients qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ne vont pas franchir le pas d'aller aux dispositifs d'aide qui leur sont proposés par l'université alors qu'ils les connaissent. Et donc là, se pose un certain nombre de questions sur la gestion de ces dispositifs d'aide à la réussite. A-t-on une crainte de marginalisation, de stigmatisation, de dévalorisation? Pour l'instant, on n'a pas de résultats à vous apporter. Et puis, certains se posent des questions sur est-ce que les dispositifs doivent être basés sur le volontariat, doivent-ils être obligatoires, un accès libre, faut-il sélectionner les étudiants, faut-il mettre en place des groupes de niveau? Alors, c'est tout un nombre de questions qui agitent chez nous nos équipes pédagogiques et qui agitent également les équipes en charge de ces questions dans les universités. Mais on n'a pas de réponse simple pour l'instant à apporter. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tous les étudiants ne vont pas tirer bénéfice des dispositifs d'aide à la réussite. On renvoie là à des questions, comme Marianne a pu l'évoquer, sur des questions de motivation qui sont au cœur de cette question. L'obligation, elle va permettre d'accroître les notes des plus faibles, mais pas de réussir. Alors, vous pouvez avoir des stratégies en disant, finalement, les plus faibles, on ne va pas les mettre dans les dispositifs. Mais là, vous voyez les questions politiques que ça peut impliquer dans une institution. Vous avez des effets différents selon les étudiants. On a pu constater dans certains dispositifs, pas d'amélioration de la réussite pour des étudiants qui étaient sélectionnés et contraints, notamment parmi les moins faibles. Certains dispositifs ont contraint les étudiants à venir, et les étudiants qui étaient parmi les moins faibles, finalement, n'ont pas eu une amélioration de leur réussite. Vous avez là, en choisissant cette question d'obligation ou pas, des étudiants qui regrettent de ne pas pouvoir suivre les dispositifs, donc il y a des questions de gestion politique au niveau de l'institution universitaire. Là, il se pose la question des critères de choix. Vous pouvez faire des tests de rentrée, vous baser sur des notes initiales pour faire ces critères de choix, mais vous avez là une question de mesure qu'il est nécessaire d'aborder. Et puis, vous pouvez mettre en place des groupes de niveau, mais ces groupes de niveau ne vont pas forcément fonctionner tous les ans, ils ne vont pas donner. Et j'ai terminé. Donc, voilà. Je suis désolée.